Chapitre 4 Le Petit Parisien. Il était à peine 4 heures de relevée. Nos estafiers avaient du temps devant eux. Sauf Passepoil, qui avait trop regardé la Maritorne louche et qui soupirait fort, tout le monde était joyeux. On buvait dans la salle basse du cabaret de la Pomme d'Adam. On criait, on chantait. Au fond des douves de Quélus, les faneurs, après la chaleur passée, activaient leur travail et liaient en botte la belle récolte de foin. Tout à coup, un bruit de chevaux se fit sur la lisière du bois dense, et l'instant d'après, on entendit des cris dans la douve. C'étaient les faneurs qui fuyaient, en hurlant, les coups de plat d'épée d'une troupe de partisans. Ceux-ci venaient au fourrage, et certes, ils ne pouvaient trouver ailleurs de plus noble fenaison. Nos braves s'étaient mis à la fenêtre de l'auberge pour mieux voir.
« Les drôles sont tardis !» dit Cocardas junior.
« Venir ainsi jusque sous les fenêtres du marquis !» ajouta Passepoil.
« Combien sont-ils ? 3, 4, 6, 8 ?»«
Juste autant que nous !»
Pendant cela, les fourrageurs faisaient leurs provisions tranquillement, riant et prodiguant les gorges chaudes. Ils savaient bien que les vieux fauconneaux de Quélus étaient muets depuis longtemps. C'étaient encore des justaucorps de buffles, des feutres belliqueux et de longues rapières. De beaux jeunes hommes pour la plupart, parmi lesquels 2 ou 3 paires de moustaches grises. Seulement, ils avaient de plus que nos prévôts des pistolets à l'arçon de leur selle. Leur accoutrement n'était du reste point pareil. On reconnaissait dans ce petit escadron les uniformes délabrés de divers corps réguliers. Il y avait 2 chasseurs de brancasse, 1 canonnier de Flandre, 1 miquelet d'au-delà des monts, 1 vieil arbalétrier qui avait dû voir la fronde. Le surplus avait perdu son cachet, comme sont les médailles frustes. Le tout pouvait être pris pour une belle et bonne bande de voleurs de grand chemin. Et, de fait, ces aventuriers qui se décoraient du nom de volontaires royaux ne valaient guère mieux que des bandits. Quand ils eurent achevé leur besogne et chargé leurs chevaux, ils remontèrent le chemin Chartier. Leur chef, qui était un des 2 chasseurs de Brancas, portant les galons de brigadier, regarda tout autour de lui et dit
« Par ici, messieurs, voici justement notre affaire. »
Il montrait du doigt le cabaret de la Pomme d'Adam.
« Bravo !» crièrent les fourrageurs.
« Mais maître, murmura Cocardas junior, je vous conseille de décrocher vos épées. »
En un clin d'œil, tous les ceinturons furent rebouclés, et les prévôts d'armes, quittant la fenêtre, se remirent autour des tables. Cela sentait la bagarre d'une lieue. Frère Passepoil souriait paisiblement sous ses 3 poils de moustache.
« Nous disions donc, commença Cocardas afin de faire bonne contenance,
que le meilleur moyen de tenir la garde à un prévôt gaucher, ce qui est toujours fort dangereux...
« Hola !» fit en ce moment le chef des maraudeurs, dont le visage barbu se montra à la porte.
« L'auberge est pleine, enfant !»«
Il faut la vider !»
répondirent ceux qui le suivaient. C'était simple, c'était logique. Le chef, qui se nommait Carrigue, n'eut point d'objection à faire. Ils descendirent tous de cheval et attachèrent effrontément leurs montures chargées de foin aux anneaux qui étaient au mur du cabaret. Jusque-là, nos prévôts n'avaient pas bougé.
« Ça, dit Carrigue en entrant le premier, qu'on déguerpisse, et vite! Il n'y a place ici que pour les volontaires du roi !»
On ne répondit point. Cocardas se tourna seulement vers les siens et murmura.
« De la tenue, enfant. Ne nous emportons pas et faisons danser en mesure messieurs les volontaires du roi. »
Les gens de Carrigue encombraient déjà la porte.
« Eh bien, fit celui-ci, que vous a-t-on dit ? »
Les maîtres d'armes se levèrent et saluèrent poliment.
« Priez-les, dit le canonnier de Flandre, de passer par la fenêtre. »
En même temps, il prit le verre plein de Cocardas et le porta à ses lèvres. Carrigue disait cependant,
Ne croyez-vous pas, mes rustres, que nous avons besoin de vos brocs, de vos tables et de vos escabelles ?»«
Ah, pas pur !» fit Cocardas junior.
« Nous allons vous donner tout cela, mes mignons !»
Il écrasa le broc sur la tête du canonnier, tandis que frère Passepoil envoyait sa lourde escabelle dans la poitrine de Carrigue. Les 16 flamberges furent au vent au même instant. C'étaient tous gens d'armes solides, braves et batailleurs par goût. Ils y allèrent avec ensemble et de bon cœur. On entendait le ténor de Cocardas dominer le tumulte par son juron favori.
« Cape de biou ! Servere ! Servere ! »
disait-il. À quoi Carrigue et les siens répondirent en chargeant tête baissée.
« En avant ! Lagardère ! Lagardère !»
Ce fut un coup de théâtre. Cocardas et Passepoil, qui étaient au premier rang, reculèrent et mirent la table massive entre les deux armées.
« As pas pur ! » s'écria le Gascon. « Bas les armes partout !»
Il y avait déjà 3 ou 4 volontaires fort maltraités. L'assaut ne leur avait point réussi, et ils ne voyaient que trop désormais à qui ils avaient affaire.
« Qu'avez-vous dit là ? » reprit frère Passepoil, dont la voix tremblait d'émotion. « Qu'avez-vous dit là ?»
Les autres prévôts murmuraient et disaient.
« Nous allions les manger comme des mauviettes !»« La paix !» fit Cocardas avec autorité.
Et s'adressant aux volontaires en désarroi.
« Répondez franc, dit-il. « Pourquoi avez-vous crié « Lagardère »?»«
Parce que Lagardère est notre chef, » répondit Carrigue.
« Le chevalier Henri de Lagardère ?»«
Oui. »«
Notre petit Parisien, notre bijou !»
roucoula frère Passepoil, qui avait déjà l'œil humide.
« Un instant, » fit Cocardas. « Pas de méprise. Nous avons laissé Lagardère à Paris, chevaux légers du corps. »
« Eh bien, » riposta Carrigue, « Lagardère s'est ennuyé de cela. Il n'a conservé que son uniforme et commande une compagnie de volontaires royaux, ici, dans la vallée. »«
Alors, » dit le Gascon, « halte là, les épées au fourreau. Viva Dieu, les amis du petit Parisien sont les nôtres, et nous allons boire ensemble à la première lame de l'univers. »«
Bien cela, » fit Carrigue, qui sentait que sa troupe l'échappait belle.
Messieurs les volontaires royaux rengainèrent avec empressement.
N'aurons-nous pas au moins des excuses ? Demanda Pépé le tueur, fier comme un Castillan.
Tu auras, mon vieux compagnon, répondit Cocardas, la satisfaction de te battre avec moi si le cœur t'en dit. Mais quant à ces messieurs, ils sont sous ma protection. À table ! Du vin ! Je ne me sens pas de joie, et donc ?
Il tendit son verre à Carrigue.
« J'ai l'honneur, reprit-il, de vous présenter mon prévôt Passepoil, qui, soit dit sans vous offenser, allait vous enseigner une courante dont vous n'avez pas la plus légère idée. Il est comme moi l'ami dévoué de Lagardère. »«
Et il s'en vante, interrompit frère Passepoil.
Quant à ces messieurs, poursuivit le Gascon, vous pardonnerez à leur mauvaise humeur. Ils vous tenaient, mes braves, je leur ai ôté le morceau de la bouche. « Toujours sans vous offenser. Trinquons !»
On trinqua. Les derniers mots, adroitement jetés par Cocardas, avaient donné satisfaction au prévôt, et messieurs les volontaires ne semblaient point juger à propos de les relever. Ils avaient vu de trop près les trilles. Pendant que la Maritorne, presque oubliée par Passepoil, allait chercher du vin frais à la cave, on transporta escabelles et tables sur la pelouse. Car la salle basse du cabaret de la Pomme d'Adam n'était réellement plus assez grande pour contenir cette vaillante compagnie. Bientôt, tout le monde fut à l'aise et commodément attablé sur le glacis.
« Parlons de Lagardère !» s'écria Cocardas. « C'est pourtant moi qui lui ai donné sa première leçon d'armes. Il n'avait pas 16 ans, mais quelle promesse d'avenir !»«
Il en a à peine 18 aujourd'hui, » dit Carrigue.
Et Dieu sait qu'il tient parole. »
Malgré eux, les prévôts prenaient intérêt à cette manière de héros dont on leur rebattait les oreilles depuis le matin. Ils écoutaient, et personne parmi eux ne souhaitait plus se trouver en face de lui ailleurs qu'à table.
« Oui, n'est-ce pas ? » continua Cocardas en s'animant. « Il a tenu parole. Péquer. Il est toujours beau, toujours brave comme un lion. »
Toujours heureux auprès du beau sexe, murmura Passepoil, en rougissant jusqu'au bout de ses longues oreilles.
« Toujours évaporé, » poursuivit le Gascon. « Toujours mauvaise tête.
Bourreau des crânes et si doux avec les faibles.
Casseur de vitres, tueur de mari. »
Ils alternaient, nos deux prévôts, comme les bergers de Virgile. Arcadès en beau.
Beau joueur.
Jetant l'or par les fenêtres.
Tous les vices, cabelebiou.
Toutes les vertus.
Pas de cervelle.
Un cœur d'or.
Ce fut Passepoil qui eut le dernier mot. Cocardas l'embrassa avec effusion.
À la santé du petit Parisien. À la santé de Lagardère. S'écrièrent-ils ensemble.
Carrigue et ses hommes levèrent leurs tasses avec enthousiasme. On but debout. Les prévôts n'en purent point donner le démenti.
Mais, par le diable, reprit Joël de Jugan, le bas breton, en posant son verre, apprenez donc au moins ce que c'est que votre Lagardère.
Les oreilles nous en tintent, ajouta Saldagne.
Qui est-il? D'où vient-il? Que fait-il?
Mon bon, répondit Cocardas, il est gentilhomme aussi bien que le roi. Il vient de la rue Croix des Petits Champs. Il fait des siennes. Êtes-vous fixé? Si vous en voulez plus long, versez à boire.
Passepoil lui remplit son verre, et le Gascon reprit, après s'être un instant recueilli.
Ce n'est pas une bien merveilleuse histoire. Ou plutôt, cela ne se raconte pas. Il faut le voir à l'œuvre.
Quant à sa naissance, j'ai dit qu'il était plus noble que le roi, et je n'en démordrai pas. Mais, en somme, on n'a jamais connu ni son père, ni sa mère.
Quand je l'ai rencontré, il avait 12 ans, c'était dans la cour des Fontaines, devant le palais royal. Il était en train de se faire assommer par une demi-douzaine de vagabonds plus grands que lui. Pourquoi? Parce que ces jeunes bandits avaient voulu dévaliser la petite vieille qui vendait des talmouses sous la voûte de l'hôtel Montesquieu. J'ai demandé son nom.
Le petit Lagardère.
Et ses parents?
Il n'a pas de parents.
Qui a soin de lui?
Personne.
Où loge-t-il?
Dans le pignon ruiné de l'ancien hôtel de Lagardère, au coin de la rue Saint-Honoré.
A-t-il un métier?
Deux plutôt qu'un.
Il plonge au pont neuf et il se désosse dans la cour des Fontaines.
À ce pas pur! Voilà de beaux métiers!
Vous autres, étrangers, s'interrompit ici Cocardas, vous ne savez pas quelle profession c'est que de plonger au pont neuf. Paris est la ville des badauds. Les badauds de Paris lancent du parapet du pont neuf des pièces d'argent dans la rivière, et il y a des enfants intrépides qui vont chercher ces pièces d'argent au péril de leur vie. Cela divertit les badauds. Viva Dieu! Entre toutes les voluptés, la meilleure est de bâtonner un de ces bagasses, et ça ne coûte pas cher.
Quant au métier de désosser, on en voit partout. Le petit couquin de Lagardère faisait tout ce qu'il voulait de son corps. Il se grandissait, il se rapetissait, ses jambes étaient des bras, ses bras étaient des jambes, et il me semble encore le voir, sans dire où, quand il singeait le vieux bedeau de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui était bossu par devant et par derrière.
Va bien, et donc? Je le trouvais gentil, moi, ce petit homme, avec ses cheveux blonds et ses joues roses. Je le tirai des mains de ses ennemis et je lui dis « Coquin, veux-tu venir avec moi ?» Il me répondit « Non, parce que je veille la mère Bernard. » La mère Bernard était une pauvre mendiante qui s'était arrangée un trou dans le pignon en ruine. Le petit Lagardère lui apportait chaque soir le produit de ses plongeons et de ses contorsions. Alors je lui fis un tableau complet des délices d'une salle d'armes. Ses beaux grands yeux framboyés. Il me dit avec un gros soupir. Quand la mère Bernard sera morte, j'irai chez vous. Et il s'en alla. Ma foi, je n'y songeais plus. 3 ans après, Passepoil et moi, nous vîmes arriver à notre salle un grand chérubin timide et tout embarrassé. « Je suis le petit Lagardère, nous dit-il. La mère Bernard est morte. quelques gentilshommes qui étaient là eurent envie de rire. Le grand chérubin rougit, baissa les yeux, se fâcha et les fit rouler sur le plancher. Un vrai Parisien, quoi. Mince, souple, gracieux comme une femme, dur comme un fer. Au bout de 6 mois, il eut querelle avec un de nos prévôts, qui lui avait méchamment rappelé ses talents de plongeur et de désossé. Sans dire où, le prévôt ne pesa pas une once. Au bout d'un an, il jouait avec moi comme je jouerais avec un de messieurs les volontaires du roi, soit dit sans les offenser. Alors, il se fit soldat. Il tua son capitaine, il déserta. Puis il s'engagea dans les enfants perdus de Saint-Luc, pour la campagne d'Allemagne. Il prit la maîtresse de Saint-Luc. Il déserta. Monsieur de Villars le fit entrer dans Fribourg-Brisgau. Il en sortit tout seul, sans ordre, et ramena 4 grands diables de soldats allemands liés ensemble comme des moutons. Villars le fit cornette. Il tua son colonel. Il fut cassé. Pécaire, quel enfant! Mais monsieur de Villars l'aimait, et qui ne l'aimerait? Monsieur de Villars le chargea de porter au roi la nouvelle de la défaite du duc de Bade. Le duc d'Anjou le vit et le voulut pour page. Quand il fut page, en voici bien d'une autre. Les dames de la dauphine se battirent pour l'amour de lui, le matin et le soir. On le congédia. Enfin, la fortune lui sourit. Le voilà chevau léger du corps. Cap et débiou! Je ne sais pas si c'est pour un homme ou pour une femme qu'il a quitté la cour, mais si c'est une femme, tant mieux pour elle. Si c'est un homme, de profundis. Cocardas se tut et lampa un grand verre. Il l'avait bien mérité. Passepoil lui serra la main en manière de félicitation. Le soleil s'en allait descendant derrière les arbres de la forêt. Carrigue et ses gens parlaient déjà de se retirer, et on allait boire une dernière fois au bon hasard de la rencontre, lorsque Saldagne aperçut un enfant qui se glissait dans les douves et tâchait évidemment de n'être pas découvert. C'était un petit garçon de 13 à 14 ans, à l'air craintif et tout effaré. Il portait le costume de page, mais sans couleur, et une ceinture de courrier lui saignait les reins. Saldagne montra l'enfant à ses compagnons. « Parbleu ! » s'écria Carrigue. « Voilà un gibier que nous avons déjà couru. Il a éreinté nos chevaux tantôt. Le gouverneur de Vénasque a des espions ainsi faits, et nous allons nous emparer de celui-ci. »« D'accord, » répliqua le Gascon. « Mais je ne crois pas que ce jeune drôle appartienne au gouverneur de Vénasque. Il y a d'autres anguilles sous roche de ce côté-ci, monsieur le volontaire. Et ce gibier-là est pour nous, soit dit sans vous offenser. » Chaque fois que le Gascon prononçait cette formule impertinente, il regagnait un point auprès de ses amis les prévôts. On arrivait de 2 manières au fond du fossé, par la route charretière et par un escalier à pic pratiqué à la tête du pont. Nos gens se partagèrent en 2 troupes et descendirent par les 2 chemins à la fois. Quand le pauvre enfant se vit ainsi cerné, il n'essaya point de fuir et les larmes lui vinrent aux yeux. Sa main se plongea furtivement sous le revers de son juste corps. « Mais bon seigneur, s'écria-t-il, ne me tuez pas, je n'ai rien, je n'ai rien !» Il prenait nos gens pour de purs et simples brigands. Ils en avaient bien l'air. « Ne mens pas, dit Carrigue, tu as passé les monts ce matin. »«
Moi ? Fit le page.
Les monts ? Au diable, interrompit Saldagne. Il vient d'Argelès en ligne directe. N'est-ce pas, petit ?
D'Argelès ? Répéta l'enfant.
Son regard, en même temps, se dirigeait vers la fenêtre basse qui se montrait sous le pont.
« Passe pas pur ! Lui dit Cocardas. « Nous ne voulons pas t'écorcher, jeune homme. À qui portes-tu cette lettre d'amour ? »
« Une lettre d'amour ? Répéta encore le page.
Passepoil s'écria.
« Tu es né en Normandie, ma poule ! »
Et l'enfant de répéter.
« En Normandie ? Moi ?»«
Il n'y a qu'à le fouiller, » opina Carrigue.
« Oh, non, non !»
s'écria le petit page en tombant à genoux.
« Ne me fouillez pas, mes bons seigneurs !»
C'était soufflé sur le feu pour l'éteindre. Passepoil se ravisa et dit.
« Il n'est pas du pays,
Il ne sait pas mentir.
Comment t'appelles-tu ? Interrogea Coquardas.
Berrichon, répondit l'enfant sans hésiter.
Qui sers-tu ?
Le page resta muet. Estafiers et volontaires qui l'entouraient commençaient à perdre patience. Saldagne le saisit au collet, tandis que tout le monde répétait.
« Voyons, réponds ! Qui sers-tu »
« Penses-tu, petit bagasse, reprit le Gascon, que nous ayons le temps de jouer avec toi ?
Fouillez-le, mes mignons, et finissons-en !»
On vit alors un singulier spectacle. Le page, tout à l'heure si craintif, se dégagea brusquement des mains de Saldagne et tira de son sein, d'un air résolu, une petite dague qui ressemblait bien un peu à un jouet. D'un bond, il passa entre Faenza et Staupitz, prenant sa course vers la partie orientale des fossés. Mes frères Passepoil avaient gagné maintes fois le prix de la course aux foires de Villedieu. Le jeune hippomène, qui conquit en courant la main d'Atalante, ne détalait pas mieux que lui. En quelques enjambées, il eut rejoint le pauvre Berrichon. Celui-ci se défendit vaillamment. Il égratigna Saldagne avec son petit poignard. Il mordit Carrigue et lança de furieux coups de pied dans les jambes de Staupitz. Mais la partie était trop inégale. Berrichon, terrassé, sentait déjà près de sa poitrine la grosse main des estafiers lorsque la foudre tomba au beau milieu de ses persécuteurs. La foudre ! Carrigue s'en alla rouler à 3 ou 4 pas, les jambes en l'air. Saldagne pirouetta sur lui-même et cogna le mur du rempart. Staupitz mugit et s'affaissa comme un bœuf assommé. Coquardas lui-même, Coquardas junior, fit la culbute et embrassa rudement le sol. Et donc ? C'était un seul homme qui avait produit tout ce vacarme en un clin d'œil et pour ainsi dire du même coup. Un large cercle se fit autour du nouveau venu et de l'enfant. Pas une épée ne sortit du fourreau. Tous les regards se baissèrent.
« Loup couquin !»
grommela Coquardas, qui se relevait en frottant ses côtes. Il était furieux, mais un sourire naissait malgré lui sous sa moustache.
« Le petit Parisien !»
fit Passepoil, tremblant d'émotion ou de frayeur. Les gens de Carrigue, sans s'occuper de celui-ci, étourdis sur le sol, touchèrent leur feutre avec respect et dirent.
Le capitaine Lagardère.